over. The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of seven series at two apiece. You've just seen history.
Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'été à venir côté Portland. Vous savez sûrement que je suis fan de cette franchise depuis de nombreuses années. Et je voulais commencer par cette franchise tout simplement pour pouvoir faire une vidéo, un podcast, avant la draft. Donc cette vidéo sera très peu précise au vu du fait que l'été n'a pas encore commencé pour Portland. La saison des free agents n'a pas commencé. Il n'y a aucun transfert. Rien du tout, mais du coup ça nous laisse le temps et l'occasion de pouvoir rêver un petit peu, de voir les occasions à ne pas manquer et ce qui pourrait être fait cet été. Et vous allez le voir, cet été va être complètement charnière pour le futur récent et le futur à plus long terme de cette franchise, on va le voir. Et beaucoup de problématiques se mettent en place cet été, je pense que tout simplement c'est un des étés les plus importants depuis la fin de l'ère Brandon Roy et peut-être même depuis les Jade Blazers. Donc oui, très importante été, très 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 stressant été finalement, et on va en parler tout de suite dans cette petite vidéo. Allons-y. 3 seconds left in the quarter. Dame steps through, deep three on the way, banks it in! Damian Lillard from the logo! He has been unbelievable from distance of late. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous annoncer que j'ai sorti ma chaîne YouTube, qui sera donc du même nom, The Natural Podcast, où vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts sortis sur Spotify, Apple Podcasts et bien sûr Deezer. Et que à terme, là on est encore sur un format podcast audio comme vous en écoutez actuellement, mais qu'à terme, je pense faire des vidéos montées ou des vidéos un petit peu différentes. Et donc je vous invite à aller vous abonner, à aller regarder un petit peu si ça vous plaît ou non. Et pour ceux qui sont déjà sur YouTube, à l'inverse, d'aller regarder ce qui se passe du côté de Spotify comme vous le voulez. Donc voilà, commençons, après cette petite page de pub, par ce qui s'est passé les années précédentes côté Portland, et vous allez le voir, c'est un petit peu déprimant. Donc après une finale de conférence perdue en 2019 face aux Golden State Warriors, pourtant diminué et sur le score de 4-0, ils ont entamé une saison 2019-2020 tout simplement, où il y avait beaucoup d'attentes sur cet effectif, un effectif qui performait, une équipe des Blazers et un front office des Blazers connu pour faire un bon travail, et c'est là que se passe la chute. Après une saison tronquée par le Covid et où les Blazers sont finis à la 8e place avec différentes blessures de Nurkic, de joueurs comme CJ McCollum encore une fois, et un coach, Terry Stott, qui commençait à faire parler et qui avait de moins en moins d'idées et qui était tout simplement sur la sellette, et bien tout simplement, les Blazers ont perdu en 5 matchs face aux Lakers, futurs champions. Et c'est pour moi le début d'une forme de redescente de cet effectif et de cette franchise qui, l'année d'après, malgré d'avoir fini 6e et qui donc n'avait pas l'avantage du terrain, qui a eu énormément de blessures, encore une fois, avec Nurkic qui a été grandement blessé une partie de la saison, et des trades qui commençaient à être très peu cohérents, notamment de Gary Trent Jr. à Toronto en échange de Norman Powell. Norman Powell qui est un très bon joueur, hein, qui le montre, mais qui n'est resté finalement que à peine un an, si ce n'est moins, je ne sais pas, peut-être une moitié d'année chez nous, alors que Gary Trent a eu de très bons passages à Toronto et est un joueur jeune, bien plus jeune que Norman Powell, qui se développe à une vitesse incroyable. Et puis c'est tout simplement un arrière qui peut jouer à côté d'un joueur comme Damian Lillard, hein, qui pouvait jouer comme à côté d'un joueur comme Damian Lillard, un très bon intercepteur, un bon défenseur, un joueur qui peut scorer 18 points par match, même si les pourcentages, en tout cas, à part à 3 points, sont plutôt faiblards de nombreuses fois. Enfin bref, continuons. Après cette saison, beaucoup de gens voyaient Portland passer face à Denver qui avait fini 3e, tout simplement parce que pendant la saison, on a eu la grosse blessure de Jamal Murray, qui a été absent plus d'un an du coup, et que de ce fait, Damian Lillard et cet effectif de Portland auraient à affronter en playoff un effectif composé d'un backcourt, notamment de Campazzo et de joueurs tels que Monte Morris et Will Barton. Et bien tout simplement, les Blazers vont perdre en 6 matchs, malgré un match de Damian Lillard à plus de 55 points quand même, dans une défaite. Donc voilà où en est Damian Lillard. On va parler de lui principalement dans cette vidéo, je pense. Très isolé, avec un effectif qui n'est pas construit idéalement autour de lui. On parle d'un attaquant all-time, mais d'un très mauvais défenseur, avec un backcourt sous-dimensionné composé de lui-même et de CJ McCollum. Je pense que vous le savez de toute façon. Mais qui, du coup, la saison d'après... après de loyales et longues années de service, eh bien CJ McCollum s'est fait transférer contre quasiment rien à mon sens, et il y avait beaucoup mieux à faire et peut-être même attendre l'intersaison pour notamment essayer d'avoir mieux en retour, parce qu'il fut transféré contre des cacahuètes, tout simplement, on va appeler un chat, aux Pelicans, où là-bas il a trouvé un rôle de meneur, et même s'il y a certains doutes sur le fait que ça soit bien un meneur qui puisse l'emmener loin du fait de matchs un petit peu moins propres, eh bien on s'est rendu compte que tout simplement CJ McCollum n'était pas un arrière, était bien meilleur dans son rôle de meneur, et qu'à côté de lui, lui aussi avait besoin de défenseurs et d'ailiers un petit peu dominants physiquement pour pouvoir l'aider. Ce qu'a besoin Damian Lillard. Donc cette année-là, on a eu beaucoup de transferts. Comme je l'ai déjà dit, donc Robert Covington et Norman Powell vont vers les Clippers, et on a récupéré Eric Bledsoe, qui je crois joue en Chine maintenant, Keon Johnson qui joue 2 minutes par match, Justice Winslow, et de l'autre côté, en perdant CJ McCollum et Larry Nance Jr., qui font les beaux jours des Pelicans là-bas. Même Larry Nance Jr. était vraiment le fit idéal à côté de Zion Williamson quand il avait l'occasion de jouer à côté, évidemment. Et nous, on a récupéré donc Josh Hart, qui est finalement la grosse pièce de cette trade deadline 2022, oui, excusez-moi, je crois que c'est 2022, et Nickel Alexander-Walker, qui est déjà parti l'été d'après, tout simplement, Thomas Satoransky, Didi Luzada, enfin bref, du très beau monde, hein, franchement, pour une équipe qui veut reconstruire. Évidemment, là, je suis un peu aigri parce que je pense qu'on aurait pu avoir bien mieux lors de cette trade deadline et comme compensation. Mais évidemment, au vu des salaires que nous avons envoyés autre part, ça nous laissait énormément de cap pour pouvoir agir l'été d'après. Et pour pouvoir construire une équipe compétitive autour de Damian Lillard. Mais ne nous trompons pas, hein. La seule pièce positive et la seule chose positive de cette saison est le fait que Anfernee Simons a enfin percé et est devenu un joueur référencé en NBA, en s'affichant tout simplement comme le visage des Blazers lors du tanking qu'ils ont fait en fin de saison. Un tanking du coup qui fut utile, évidemment, comme je l'ai dit, un tanking qui prouve qu'il n'y a pas eu de playoff cette année-là. Le fait de ne pas arriver à entourer un joueur générationnel comme Damian Lillard pour ne pas finalement aller en playoff, hein, ce qui fut un échec cuisant à mon sens, malgré un pick 7 qui fut transformé à cette draft-là en Shaedon Sharpe, qui a un énorme potentiel, et pour moi un échec cuisant qui montre déjà que ce management a énormément de difficultés à construire et à être performant. Ils ont eu des bons joueurs pendant quelques années, malgré que voilà, sur les ailes, ce n'était pas grandiose, etc. Ce qui cachait tout simplement la misère tout simplement qu'on a eu à entourer Damian Lillard, des joueurs comme CJ McCollum, comme Nurkic il y a quelques années, comme du coup Damian Lillard en lui-même, permettait de sauver les meubles, on va dire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On remarque vraiment qu'il y a de grandes difficultés à créer cet effectif. Et malgré ça, pendant l'intersaison, on a eu quelques espoirs, tout simplement avec l'arrivée de joueurs comme Gary Payton II, fraîchement champion NBA avec Golden State, hein, qui est arrivé libre. Mais finalement, on verra par la suite que c'était juste pour prendre ce gros contrat qu'il souhaitait. Jeremy Grant, effectivement, de Détroit, qui lui aussi, là je suppose et je fais quelques prédictions, lui aussi cherche tout simplement à obtenir un gros contrat à Portland. Voilà, on va faire dans l'ordre, on va continuer à en parler. Yusuf Nurkić a été prolongé, Anfernee Simons aussi. Des joueurs comme Shaedon Sharpe ou Jabari Walker ont été draftés. Et tout simplement, on a un effectif au début de la saison actuelle qui était plutôt prometteur, hein, je vais pas mentir. Damian Lillard avec derrière lui Gary Payton II qui peut le suppléer au niveau défensif et qui peut tout simplement faire des cuts pour pouvoir aller marquer au panier, c'est plutôt correct. Anfernee Simons, même si je trouve que le fit n'est tout simplement pas bon avec Damian Lillard, reste un grand joueur de talent et un talent offensif assez impressionnant. Josh Hart, sur le poste 3, qui est un poste 2 de base, mais qui fut décalé, qui, de ce fait, était un des meilleurs rebondeurs de son poste, tout simplement, qui aussi est un bon shooter à 3 points, un joueur de complément parfait pour cet effectif-là, mais qui a aussi beaucoup déçu, notamment au tir, lorsqu'il était à Portland. Et ensuite, on a des joueurs comme Nasir Little, qui demande qu'à se développer, des joueurs de complément encore une fois, un Jeremy Grant qui a commencé la saison de manière excellente à plus de 20 points et qui était là dans le rebond, dans la défense, dans l'intensité, dans le scoring, et bien sûr des pivots très très moyens en la personne de Yusuf Nurkic et Drew Banks. Donc cette saison promettait au moins de jouer le top 6 au top 4, peut-être le top 8 au top 3 de l'Ouest. Moi, c'est ce que j'espérais, hein. Je pensais réellement que cet effectif pouvait faire bien mieux, et le début de saison va me donner raison, tout simplement avec je n'ai plus les stats en tête, mais énormément de victoires et un top 3 de la conférence Ouest qui s'est maintenu pendant plus d'un mois et demi, où Damian Lillard était en surchauffe totale, Anthony Simons le suppléait parfaitement. On avait des joueurs comme Josh Hart, même s'ils avaient des difficultés au tir, étaient à plus de, je crois, 8 ou 9 rebonds par match, alors même que c'est un arrière. Un ailier quand il jouait à Portland. Jeremy Grant a plus de 20 points aussi. On pensait même à une première sélection All-Star de sa part. Yusuf Nurkic, qui était caché défensivement et qui donc n'avait pas le même impact négatif qu'il aura après. Et tout simplement, après, on a eu la blessure de Damian Lillard, une blessure qui a provoqué la chute de cet effectif dans le top 10, top 12 de l'Ouest. Et tout simplement, ils ne remonteront jamais. Hein. On a eu cet effectif complètement remanié à la trade deadline encore une fois, avec le départ de Josh Hart contre Cam Reddish. Un départ totalement illogique quand on sait que Portland veut gagner maintenant, veut gagner le plus rapidement possible. Donc c'est totalement illogique de prendre un jeune joueur qui est considéré par beaucoup, par deux franchises, donc déjà Atlanta et les Knicks, comme un bust. Même s'il a énormément de talent, notamment offensif, et qu'en défense, il peut se construire une petite carrière, déjà, on doit attendre pour voir ce qu'il pourrait donner. Il faut lui donner du temps de jeu et donc potentiellement perdre certains matchs. Là où Josh Hart était le joueur parfait, et on le verra plus tard lorsqu'il est arrivé à New York et qu'il a fait un second tour de playoff avec les New York Knicks, que en fait c'était une erreur hein, pour moi, tout simplement. Jeremy Grant était dans sa dernière année de contrat. Là, il demande tout simplement un contrat max, je crois, ce qui est totalement aberrant vu son profil et vu ce qu'il a montré depuis ces dernières années. Hein. On parle d'un joueur à 20 points dans des équipes qui gagnent moins de 30 matchs par saison. Donc voilà, en plus de ça, c'est un secret de polichinelle. Son début de saison était uniquement pour faire valoir ses droits à un gros contrat, ce qu'il aura peut-être, hein, on ne sait pas. Mais pour moi, c'est une erreur. Yusuf Nurkic, que beaucoup défendaient, même j'ai entendu Trash Talk dire que c'était un vrai pivot titulaire en NBA, je ne suis pas du tout d'accord. Yusuf Nurkic est un tronc d'arbre qui ne peut pas switch et se déplacer sur un terrain de basket efficacement. C'est un des pires défenseurs et un des plus gros mismatch pour moi au poste de pivot titulaire dans cette ligue. Il peut shooter, il shoot assez efficacement, même de loin, il arrive à sortir quelques perfs à 3 points, mais en fait, on s'en fiche. On a des meneurs et arrières comme Anthony Simons et Damian Lillard qui sont tout simplement, pour Damian Lillard, all-time, et pour Anthony Simons, à terme, un des meilleurs shooters à 3 points en sortie de dribble de la ligue, je le pense réellement. À quoi nous sert tout simplement un Yusuf Nurkic qui peut shooter à 3 points? Je préfère limite avoir un Drew Banks ou un Trendon Watford sur le terrain. D'ailleurs, Trendon Watford, comme Nasir Little, et en fait, les jeunes de cet effectif, même s'ils ne sont pas du tout prêts au haut niveau, sont potentiellement les joueurs qu'il nous faut dans le futur. Mais encore une fois, on vise à être contender. Shai Gilgeous-Alexander, effectivement, a eu des bonnes minutes aussi. Il tournait à plus de 9 points par match sur la saison, plutôt propre au shoot. Un énorme talent offensif avec des comparaisons qui pleuvaient déjà à terme sur des joueurs référencés, que je ne citerai pas le nom, et qui en fin de saison, lorsque encore une fois l'effectif de Portland a tanké pour une deuxième année consécutive alors qu'on vise à être contenders, eh bien Shaedon Sharpe a pris les clés du camion et a tourné à plus de 24 points de moyenne dans un effectif qui perdait évidemment, mais avec un jeu léché, des stats très propres, pas du tout en forçant comme d'autres équipes en reconstruction pourraient faire. Je ne citerai encore une fois pas de nom, mais aller voir du côté des Rockets, et on peut penser du coup qu'on a un peu notre backcourt d'avenir avec Damian Lillard et Shaedon Sharpe. Donc ça, enfin d'avenir, voilà, vous m'avez compris, hein, le backcourt actuel. Donc ça, c'est une grande décision à avoir. Donc juste pour finir et pas m'éparpiller, on a fini la saison, je crois, 13e, un des 5e ou 6e pires bilans de la NBA, ce qui est quand même assez fou au vu de l'effectif de base de la saison et tout simplement de ce que souhaitait Damian Lillard. Eh bien, on n'a fait que descendre, hein, tout simplement. C'est la pire saison que j'ai vue depuis que je suis Portland, on va dire, assidûment. Et tout simplement, des questions se posent, hein, des questions se posent, des rumeurs ont lieu sur Damian Lillard, sur comment continuer avec cet effectif, comment être contenders, ou s'il ne faudrait peut-être pas reconstruire. Donc la question s'est aussi posée parce qu'on a eu, lors de la loterie NBA, le troisième pick. Donc moi, je vais dire tout simplement mon avis sur le sujet dans ces prochaines parties. On va parler un petit peu de tous les joueurs actuels et ce que j'en pense, même si ça a déjà été le cas, on va s'attarder un petit peu plus sur certains cas et ce qu'ils peuvent proposer pour nous en termes d'assets ou de joueurs du futur, tout simplement. On va parler aussi du coaching, que j'ai très peu abordé, hein, et on va parler, bien sûr, de deux solutions, de deux voies potentielles qui peuvent être suivies par cet effectif, selon si Cronin, qui est le GM des Blazers, décide de reconstruire ou décide de continuer et de persister dans ce souhait de devenir contenders et d'apporter cet effectif compétitif autour de Damian Lillard. Donc on va y aller, voilà, allons-y tout simplement. Enjoy what the NBA as a whole is becoming. Now it's like regular season don't count. Get a ring. This guy is the MVP. This guy did this. He the first. It's like, bro, what, like, what is this stuff? Like, what is this? You know what I'm saying? Like, bro, I don't need to prove to y'all that I want to win a ring. Why the hell do I play? Like, while I understand we play to win championships, we all want to win a championship. We can't keep acting like nothing matters, like the rest of the stuff, the journey doesn't matter. Alors, commençons avec les conclusions à apporter autour de cet effectif et de la franchise en général. Pour moi, le seul point positif de cet effectif, en dehors du niveau intrinsèque de Damian Lillard, qui a 32 ans, qui est tout simplement au sortir de sa meilleure saison régulière depuis qu'il est en NBA, hein, en 32 points, plus de 4 ou 5 rebonds, oui, 5 rebonds, et 7 passes, à des pourcentages assez incroyables, hein, pour la quantité de shoot et la shooting map qu'il a, c'est assez impressionnant. Et bien, pour moi, Damian Lillard est évidemment un point positif à sortir de cette saison, ça paraît évident. Les jeunes aussi, Sharpe, comme je l'ai dit, Nassir Little, qui, on va dire, même s'il a eu quelques petites blessures, continue à se développer. Même Tretton Watford, que je trouve très bon dans son rôle, mais qui est encore une fois très limité, hein. Ce genre de joueurs-là sont évidemment, ou même Jabari Walker, hein, vraiment, je suis plutôt content de ce qu'on a drafté ces années précédentes, et notamment de Shaedon Sharpe. Anfernee Simons, pour moi, est aussi évidemment une très bonne nouvelle, on va dire, pour Portland, en termes d'assets plus qu'en termes de joueurs du futur, parce que tout simplement, si on veut continuer dans cette voie, il va falloir faire des choix, et le premier choix qui doit être fait par le coach et le management, c'est tout simplement, est-ce qu'on met Shaedon Sharpe devant Anfernee Simons? Pour moi, le problème se pose là, sur le backcourt. Shaedon Sharpe, à terme, peut être un très bon défenseur, avec un physique et des segments assez longs, et tout simplement, une explosivité, tout ce qu'il faut, en fait, à un bon défenseur en NBA, avec la taille qui convient, là où Ant, pour un poste 2, est sous-dimensionné. Et tout simplement, il est un petit peu dans l'ombre de Damian Lillard, tout simplement parce qu'il a les mêmes qualités, je pense, que Damian Lillard. Son shoot à 3 points est léché, très fort. C'est un joueur qui est un très mauvais défenseur, un bon passeur quand il a l'occasion de jouer sans Damian Lillard, les minutes où il est tout seul ou en tout cas il mène l'attaque, c'est un très bon passeur qui peut décaler dans les corners, qui quand il attaque le cercle, même s'il le fait pas très souvent, peut être efficace. Et évidemment, en sortie de dribble de son côté gauche, si je me trompe pas, oui c'est ça, en sortie de dribble à 3 points, et bien tout simplement c'est létal, hein. C'est un joueur avec des pourcentages assez énormes à 3 points dans certaines zones du terrain et qu'il ne peut pas des fois atteindre, en tout cas en sortie de dribble, parce que tout simplement la balle revient dans les mains de Damian Lillard. Donc oui, c'est un problème de fit qui se pose là, mais on a quand même, je l'espère en tout cas, des GM qui vont s'intéresser énormément à Anfernee Simons cet été, et c'est peut-être l'un des plus gros points pour continuer à faire progresser cet effectif, notamment en tradant malheureusement un joueur avec un grand avenir et aussi jeune, mais il va falloir le trader, je pense. Ensuite, ce que je n'aime pas, évidemment, Nurkic doit partir de cet effectif. Jeremy Grant, on peut trouver mieux sur le marché pour moins cher, ou en tout cas trouver aussi bien. D'ailleurs, dans les free agents qui arrivent, il y en a plusieurs, on va en reparler, qui m'intéressent et qui peuvent jouer ce rôle d'ailier, peut-être ailier fort à la perfection. Et voilà, en tout cas, je pense que sur l'effectif, on en a assez parlé, on a assez critiqué comme ça. Donc on va parler de la problématique qui se pose déjà avec le coach. Alors le coach, c'est Chauncey Billups. Je m'aperçois que maintenant que j'ai pas parlé de lui avant. Donc oui, c'est le coach a changé depuis déjà 2 ans. Donc 2 ans où on a vu que c'était juste les pires années depuis que je suis la franchise, hein, les pires années depuis les jeunes années de Brandon Roy peut-être, voilà. Donc oui, même sous LaMarcus Aldridge, ça allait en playoff, donc c'est les pires années depuis bien longtemps pour nous. Et tout simplement, Chauncey Billups, qui est un joueur référencé, un incroyable défenseur, un général sur le terrain, se trouve être, à mon sens aujourd'hui, un entraîneur qui, malgré le fait qu'il n'a pas eu toutes les assets et les joueurs qu'il aurait voulu avoir, je pense, pour créer cet effectif peut-être défensif, n'a montré, depuis 2 ans en tout cas, aucune facette, aucun modèle de jeu, aucun style de jeu ou de culture, aucune culture s'est dessinée en l'espace de 2 ans. Même sur certaines périodes, sur certains débuts de match, tous les matchs gagnés sont sur des performances, et parce qu'en fait l'effectif reste plutôt bon, notamment en début de saison, hein. Jeremy Grant était très fort à Denver et encore plus fort à Détroit malgré le fait qu'il avait tous les ballons. On parle quand même de Damian Lillard, de Anfernee Simons, de joueurs comme ça, Josh Hart, on sait ce que ça vaut et tout ça. Ensuite, il y a eu Matisse Thybulle. Non, il y a eu des défenseurs dans cet effectif. Évidemment, peut-être pas aussi versatile qu'il s'attendait, peut-être pas avec le style de jeu auquel il voulait prêter attention. Peut-être que Damian Lillard, en tant que principale pièce de ce projet Blazers, n'est pas celui qu'il voudrait. En tout cas, un profil de jeu avec lequel il peut matcher, on va dire. Mais le fait est qu'il savait dans quoi il s'embarquait et il n'a pas répondu aux attentes. Et bizarrement, je pense ne pas être le seul à penser cela, mais il n'a toujours pas été viré, licencié, remercié, tout ce que vous voulez. Il n'a pas encore été. Alors même que cette intersaison a commencé avec un jeu des coachs et un roulement de coach assez important. Et sur le marché, on l'a vu, hein, il y avait des coachs de talent, et il y a même encore pour moi des coachs de talent qui peuvent tout simplement répondre aux attentes de Portland. Donc oui, il y a peut-être une confiance exacerbée entre Damian Lillard et Billups. D'ailleurs, je trouve que c'est un des problèmes de cette franchise, hein. Dès qu'il y a une bonne entente entre certains mecs, et notamment avec Damian Lillard, eh bien, on n'ose pas ou on ne les transfère tout simplement pas. Nurkic est un grand ami de Damian Lillard, mais n'est tout simplement pas le joueur qu'il nous faut. Donc, c'est plus que dommage, en fait. C'est que on gâche des carrières, que ce soit de coach ou de joueur, par une forme de suffisance, une forme de d'amitié un petit peu, alors qu'on est dans un business en NBA. Enfin bref, je m'égare. Donc voilà, je n'ai aucune confiance en Billups. Ça sera, je pense, le début de saison, sa dernière chance de faire ses preuves, parce qu'il pourra se faire virer très très tôt si ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, s'ajoute qu'il y a pour moi de gros problèmes dans les bureaux, et ça va beaucoup conditionner ce que je vais dire ensuite sur est-ce qu'il faut rebuild ou il faut devenir et essayer de devenir un contender. C'est que en fait la situation des Blazers est assez catastrophique, parce qu'on est dans une situation de vente de franchise. On a Phil Knight, qui est le créateur de Nike, qui voudrait racheter la franchise à plus de 2 milliards et des brouettes de dollars, qui est évidemment un enfant de la ville, qui a une des plus grosses richesses du monde, hein, je crois qu'il est 25e ou quelque chose comme ça, qui veut racheter la franchise. Et de ce fait, l'actuel président et l'ensemble du front office ne savent pas comment agir. Parce que pourquoi ils iraient reconstruire alors même qu'ils ont une tête d'affiche énorme qui donne de la valeur ajoutée en termes d'argent, de monnaie tout simplement, à leur franchise et à leur vente en la personne de Damian Lillard? Mais pourquoi se mettre dans le rouge en payant la luxury tax alors même qu'ils vont simplement vendre cette franchise? Donc ils sont dans une espèce d'entre-deux, j'ai l'impression, en tout cas, hein, d'un point de vue extérieur, qui veut en faire en sorte qu'ils ne vendent pas leurs meilleurs joueurs, mais qu'ils ne veulent pas non plus l'entourer et prendre assez de risques pour faire en sorte que lors de ces dernières années de prime, eh bien, ils soient assez performants et assez bien entourés pour pouvoir jouer le titre. Donc pour moi, la raison logique, c'est celle-là. On vendrait évidemment beaucoup moins cher une franchise sans Damian Lillard. On n'a pas envie de dépenser des millions de dollars pour une franchise qui, dans 6 mois, ne sera peut-être plus la sienne. Mais dans ce cas-là, pour les fans et pour le reste, c'est compliqué, très compliqué. Donc cette situation doit se décanter assez rapidement. Et ça amène à mes deux choix dont je vais parler maintenant. Donc le premier est tout simplement le rebuild. Tout simplement... comme je l'ai dit, on ne peut pas gagner maintenant avec une situation dans les bureaux qui est aussi compliquée. On ne veut pas se mettre dans le rouge, on ne veut pas prendre de risques. Ça fait 2 ans que la franchise est dans le mal, on ne choisit même pas un coach référencé. On veut payer peut-être plein pot un joueur comme Jeremy Grant qui, à ce que je sache, n'a absolument rien fait dans cette ligue. Non, c'est compliqué. Évidemment, sur le marché des transferts, on a des assets. C'est une des premières années où on aura des assets. Donc, on en parlera tout à l'heure. Mais la plus grosse de nos assets, donc, reste Damian Lillard. Et reconstruire avec ce pick 3, Anfernee Simons et Shaedon Sharpe, ça pourrait être énorme. Tout simplement parce qu'en fait, le pick 3, même si les rumeurs, je n'y crois pas trop, je pense vraiment que Charlotte va prendre Scoot Henderson. Partons du postulat que Charlotte est une franchise très mal gérée aussi et qu'ils prennent Brandon Miller. On aurait une reconstruction assez incroyable avec Shaedon Sharpe, Scoot Henderson et Anfernee Simons. Anfernee Simons qui pourrait être une pièce à vendre pour plus tard si on a déjà le backcourt du futur avec Scoot Henderson et Shaedon Sharpe. Shaedon Sharpe qui donc pendant plus de 5, 8, 10 matchs, je ne sais plus combien, a tourné à plus de 24 points de moyenne. Et un Scoot Henderson qui est pour moi tout simplement le troisième meilleur prospect de ces 10 dernières années. Derrière Zion, en termes de prospect évidemment, derrière Zion et derrière Victor Wembanyama qui est le plus jeune professionnel de l'histoire des États-Unis. Qui salit tout simplement des pères de famille en G-League depuis qu'il a 17 ans et qui tout simplement pourrait être ce genre de meneur qui devient All-NBA d'ici 4-5 ans. Et à côté de ça, on a un Shaedon Sharpe qui a la taille requise pour une fois dans l'histoire de Portland pour jouer 2 et ne pas être tout simplement un deuxième meneur qui se décale, qui peut même jouer 3 finalement. Les deux sont sur-athlétiques, on aurait un backcourt sur-athlétique pour commencer cette nouvelle histoire. Billups pourrait prendre de l'expérience et tout simplement donner la bonne mentalité à ces jeunes-là. Autour de ça, on a évidemment les Trendon Watford, les Nasir Little qui auraient enfin le temps de jeu pour se développer. À côté de ça, on aurait sûrement en tradant tout simplement Damian Lillard. Je sais que ça fait beaucoup de mal à beaucoup de monde hein, dans notre communauté, mais déjà je suis fan de Portland et pas de Damian Lillard. Enfin évidemment je suis fan de Damian Lillard, mais d'abord de Portland. Je pense que pour les deux parties c'est mieux de se séparer. Ça fait déjà 1 an et demi que je le pense, mais bon bref, passons. Si on arrive à recevoir des assets assez importantes, notamment aux Nets où on pourrait avoir des Cam Thomas, si on arrive à bien jouer le jeu, même si je pense que c'est impossible, on pourrait avoir des Nick Claxton, donc excusez-moi, passer de Nurkic à Nick Claxton, je signe tous les jours. Encore une fois, une équipe qui serait évidemment beaucoup trop jeune pour jouer quelque chose, hein, encore pendant 2-3 ans, mais qui serait sur-athlétique, qui a l'air d'avoir la bonne mentalité. Hein, Shaedon Sharpe est vraiment, pour moi, c'est mon chouchou de toute façon, donc je ne suis pas objectif. Hein, mais Scoot Henderson a déjà montré que c'était un leader, même à son âge en J-League, et un gros winner. Billups, en termes de joueurs, et je pense dans les vestiaires, quand ils parlent tout simplement aux joueurs, je pense que c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut pour une équipe qui veut se reconstruire, en espérant qu'ils s'améliorent tactiquement et qu'il arrive à créer un petit peu le projet qu'il voulait. Ensuite, on pourrait avoir énormément de picks de draft, même si, voilà, je pense que par exemple, s'il part à Miami, ça pourrait être plus compliqué. On sait que le front office va faire en sorte de le faire partir dans l'endroit où il veut, tout simplement parce qu'il le respecte et tout ce qu'il a donné à la franchise fait que il mérite au moins d'être dans une franchise compétitive. Je pense que les Nets ont beaucoup d'assets qui pourraient intéresser Portland pour le faire venir, mais dans le cas où il veut aller jouer à Miami, ça serait plus compliqué. Mais même comme ça, tout simplement, on pourrait viser la draft, on pourrait avoir, même si on perd, un backcourt qui fait rêver. Je suis sûr que même malgré les défaites, on pourrait apprécier la reconstruction de Portland, même si on sait que mentalement, c'est dur de suivre ce genre de reconstruction. C'est dur de perdre 70 matchs ou 60 matchs par saison. Non, mais je me demande tout simplement comment gagner dans ces conditions si on ne veut pas avoir la luxury tax. Je pense que c'est une autre génération, il faut attendre encore peut-être la vente de cette franchise et potentiellement espérer que la situation se décante, mais que ça ne se fera pas sous l'ère Damian Lillard, malheureusement, mais qui peut créer et être à l'origine d'une seconde ère plus importante. Évidemment, moi, je pars de ce principe-là si en 3, on arrive à avoir Scoot Henderson. Brandon Miller, pour moi, est trop haut dans les prévisions de draft, tout simplement. Je pense qu'Amen Thompson serait même un meilleur choix que lui. Brandon Miller, en plus, je crois, aura bientôt 21 ans. Pour moi, ça pourrait être un très bon 3&D, mais pas du tout une future star dans la NBA actuelle, hein, tout simplement. Il me fera peut-être mentir, mais au vu de son passif hors terrain aussi, ça ne m'attire pas. Donc, dans le cas où, de toute façon, le transfert n'aura pas lieu le soir de la draft, on peut attendre, tout simplement, de voir si on possède Scoot Henderson ou Brandon Miller. Peut-être Amen Thompson si on n'est pas trop bête, mais pour moi, ça sera Brandon Miller. Il y a un gap entre les trois premiers picks et le quatrième qui sera sûrement Amen Thompson, malheureusement. Mais du coup, s'il y a Brandon Miller, il faut absolument essayer de le transférer pour devenir contender. Et là, essayer, sans payer trop cher. Apparemment, c'est important, même s'ils disent le contraire, pour le management, pour le front office, de ne pas se mettre dans le rouge en ayant s'ils n'ont pas tout simplement la certitude qu'ils joueront le titre l'année prochaine. Donc à voir. Mais il y a beaucoup de rumeurs qui sont très intéressantes et qui montrent quand même un certain attrait pour Portland, ou peut-être aussi le fait d'arnaquer Portland serait intéressant pour beaucoup de franchises pour obtenir ce pick 3. Beaucoup de franchises en reconstruction déjà, comme Orlando, même si je ne sais pas ce qui pourrait nous apporter, ou Chicago qui, pareil, pourrait nous apporter des joueurs qui n'ont pas un profil assez défensif pour être intéressant pour nous, voudraient monter dans cette draft. Moi, je pense plutôt que le pick 3 pourrait aller une franchise comme Toronto, mais comme je l'ai dit, on est si loin des premières rumeurs, des premières vraies rumeurs et des premiers actes des front office qu'il est difficile de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. J'ai vu depuis 2 jours notamment qu'ils ne veulent pas passer par une reconstruction côté Toronto, donc on ne sait pas si Pascal Siakam pourrait être transféré. Parce que oui, je l'annonce directement, Pascal Siakam serait mon premier choix pour être transféré et pouvoir passer un step côté Blazers. Il y a des rumeurs, d'autres rumeurs dont je vais aborder après, mais pour moi, Pascal Siakam est la principale asset, le principal joueur qui doit venir en échange peut-être d'un Anthony Simons et d'un pick 3, ce qui sera un très beau package pour Pascal Siakam, je pense. Et au pire, on rajoute quelques cacahuètes pour faire en sorte que ce transfert se fasse. Mais bref, Pascal Siakam. Donc moi, ce qui m'intéresse principalement avec lui, c'est tout simplement que c'est un joueur du front court assez défensif déjà. C'est un joueur assez all-around qui peut passer, défendre, reprendre des rebonds, qui peut scorer assez efficacement, même plus qu'efficacement. Hein. Il sort d'une saison All-Star en 24 points, 7 rebonds, 6 passes, quelque chose comme ça, excusez-moi, je ne sais plus, mais en 24-7-7 peut-être, un truc comme ça, et qui est très intéressant à côté d'un joueur du bas-court. Pour moi, les meilleurs duos se font front-court, bas-court, de toute façon, c'est le cas dans beaucoup de franchises. Il y a beaucoup d'exemples récents avec un joueur qui peut finir les matchs, un joueur qui défend pour l'autre, des joueurs qui se complètent aussi dans les profils, hein. Là, pour le coup, c'est le cas, et donc je pense que ça serait une excellente addition Bien plus qu'un Jeremy Grant, évidemment, ce n'est pas le même prix et le même type de joueur, mais quitte à payer cher et à vouloir re-signer un joueur important, je préfère re-signer et essayer de créer quelque chose autour de Damian Lillard et Pascal Siakam, évidemment. Moi, la première problématique qui me vient, et la principale d'ailleurs, c'est que Pascal Siakam est un joueur très particulier dans son profil de jeu, même s'il sait faire beaucoup de choses, et qui, du coup, je pense, doit, pour performer, être très bien coaché. Être très bien coaché, notamment tactiquement, et qui, du coup, j'ai peur que sous Chauncey Billups, il ne soit pas à son plein potentiel. Il arrive peut-être à trouver sa place après quelques mois, mais que ces mois de transition font qu'on perde encore une année ou qu'on ait du mal à créer une certaine alchimie pour devenir contenders assez rapidement. C'est ça la plus grosse problématique pour moi dans le fait d'être contenders, c'est que on a l'exemple récent de toutes les franchises qui ont gagné. Cela ne se fait pas en une intersaison ou en une trade deadline. Ça prend des années de construire un effectif assez performant et qui se mélange assez bien pour pouvoir gagner le titre, et ajouter des joueurs aussi importants et aussi différents que ceux qu'on a actuellement, ça pourrait être compliqué, même si, comme je l'ai dit, hein, c'est un joueur assez all-around, qui peut faire beaucoup de choses, et qui a ce profil défensif qui, je pense, que Billups recherche, en tout cas sur le fond de courte, pour être intéressant. Évidemment, ça ne suffira pas. Pour moi, il y a d'autres choses à faire, mais avant de ça, on va parler des autres choix et des autres rumeurs qui sont en cours. Déjà, on a Brandon Ingram. Alors, j'adore le joueur, hein, je trouve que c'est un des joueurs les plus sous-cotés et les plus beaux à voir jouer de cette ligue. On sait que même s'il est beaucoup blessé, les 20 derniers matchs de la saison, et même pour aller l'année dernière en playoff, il avait fait, il tournait à plus de 30 points de moyenne, il avait sali les Suns malgré la défaite, et cette saison, comme je l'ai dit, il tournait aussi à 30 points de moyenne pour accrocher le play-in. Donc oui, c'est un grand joueur, un joueur qui est beaucoup plus jeune et peut-être un peu moins référencé, même s'il a un plafond plus haut que Pascal Siakam. Mais à côté de ça, je ne crois zéro à ces rumeurs, je suis désolé. Rien que le fait que le coach, je ne sais plus son nom, excusez-moi, soit venu au match avec Brandon Ingram, les matchs de la finale, et que bah, tout simplement, avec ses performances récentes, il fasse entièrement partie du projet, je pense réellement que les rumeurs ne vont pas aller côté Brandon Ingram, mais plutôt côté Zion Williamson. Et malgré le fait que Zion Williamson ait un talent énorme, je n'ai aucune envie et aucune confiance dans le fait de le voir arriver tout simplement à Portland. Hein. Je suis désolé, je préfère avoir Brandon Ingram, mais comme je l'ai dit, pour moi, cette rumeur est factuellement fausse. Elle n'arrivera pas, parce que Brandon Ingram est le joueur du projet aujourd'hui. Ce n'est plus Zion Williamson, ça a changé. Zion Williamson, même s'il est deux fois All-Star, il n'a pas réussi à enchaîner les matchs. Ces histoires extra-sportives, même si elles ne sont pas si graves que ça, enfin genre, en tout cas légalement, ou enfin, vous m'avez compris, montre qu'il n'est pas vraiment sérieux sur le fait de rester en bonne santé. Il y a de plus en plus de rumeurs qui parlent encore de son poids, qui parlent de ce genre de choses-là. Il n'arrive pas à enchaîner les matchs. Donc évidemment, je pense que un pick 3 serait une erreur à transférer face à Zion Williamson. Il y a d'autres rumeurs, évidemment, hein, mais pour moi, par exemple, Michael Bridges, qui fait partie des rumeurs, eh bien, tout simplement fait partie du projet à long terme des Nets. Il ne sera jamais transféré, c'est un fait. Jaylen Brown, qui, pareil, a des envies de départ, eh bien, tout simplement, il a des envies de départ pour devenir une sorte de franchise player dans un autre effectif. En tout cas, un joueur beaucoup plus important et pas sous-coté comme il l'est aux Celtics. Alors déjà, je trouve que cette raison est un petit peu bête. Hein. Évidemment, je m'avance, il n'a pas dit ça mot pour mot, mais on comprend un petit peu ses intentions. Donc pourquoi vouloir venir à Portland? Évidemment, il n'aura pas le choix, ce sera sous un sign and trade, un transfert ou ce que vous voulez. Mais pourquoi venir à Portland, se mettre derrière un joueur comme Damian Lillard alors qu'il veut quitter les Celtics pour ne pas être derrière un joueur comme Jason Tatum? Pour moi, cela n'a pas de sens. Pardon. En plus du fait que même si, évidemment, on ne joue pas le titre avec Pascal Siakam, et que Jaylen Brown est peut-être intrinsèquement un meilleur joueur que lui, je n'ai pas confiance en en des bacs courtes d'All-Star. Je pense que ça va être assez compliqué. Je pense aussi que Jaylen Brown a eu beaucoup d'histoires avec Joe Mazzulla, son coach, et que si ça commence à arriver à Portland et que ça ne s'entend pas avec la direction, avec Chauncey Billups, Damian Lillard est très ami avec eux, même si j'ai confiance en les qualités de leader de Damian Lillard, de rassembler tout le monde derrière lui, je pense que Jaylen Brown déjà ne bougera pas évidemment des Celtics, mais s'il bouge, il dira publiquement qu'il ne veut pas venir à Portland. Donc oui, pour moi, ça serait mon deuxième choix potentiellement. J'ai dit beaucoup de choses négatives, mais je pense que sur un back court, ça serait le joueur idéal qui puisse porter la balle, qui peut défendre à côté de Damian Lillard. Mais déjà, ça bloquerait la progression d'un joueur comme Shaedon Sharpe. Moi, à terme, dès la saison prochaine, en fait, j'aimerais bien que Shaedon Sharpe devienne titulaire et je pense qu'il a le niveau intrinsèque pour le devenir, même s'il est encore très jeune. Donc non, restons pour moi en tradant ce pick 3 qui deviendrait Brandon Miller ou Amen Thompson, etc. Et peut-être Anfernee Simons, hein, qui de toute façon ne prendra jamais ce rôle de sixième homme à mon sens et qui de toute façon doit être dans ce package pour qu'il soit attirant. Eh bien, on a la création d'une team compétitive autour de deux stars. Deux stars et potentiellement une troisième en la personne de Shaedon Sharpe en devenir. Évidemment, là, je m'avance beaucoup hein, pour Shaedon Sharpe. J'ai énormément confiance en lui, même si sur sa deuxième saison, il arrive à tourner à 13 points de moyenne, à des pourcentages assez propres et défendre efficacement, ce sera une victoire et ça sera une très bonne saison pour ce type de joueur. Donc voilà, continuons, parce qu'en fait, il y a énormément de boulot à faire, je pense, à mon avis. Donc évidemment, si je continue, c'est avec la free agency. Principalement, parce que je pense qu'on peut trouver tout type de joueurs cette année qui pourraient compléter ce roster qui a déjà besoin. Pour moi, il n'y a pas besoin d'une troisième star ou d'une superstar. Il faut déjà deux stars qui s'entendent et se complètent. Et on l'a vu avec les vainqueurs récents, en NBA, qu'autour, il faut juste des joueurs talentueux et qui jouent en harmonie, hein, tout simplement, la base du basket, tout simplement. Donc voilà, à la free agency. On va commencer sur les ailes, hein, parce que là, on a sur les ailes donc un Cam Reddish et un Matisse Thybul, ce genre de joueurs qui, excusez-moi, mais ne sont tout simplement pas des titulaires en NBA. Donc, pour moi, sur les ailes, j'essayerais de proposer un contrat assez intéressant à un Harrison Barnes, qui est pour moi un ailier déjà titulaire en NBA, qui peut marquer sa 15e de points, qui est lui aussi assez versatile, qui est on va pas dire un expert du haut niveau, mais qui a vu le haut niveau et il a un titre NBA, quand il était encore assez jeune avec Golden State, qui a une bonne mentalité, hein. De toute façon, il a joué avec les pires Kings possibles et on a l'impression qu'il ne s'est jamais plaint. Donc, oui, c'est le type de joueur et de soldat qu'on a besoin. En plus de ça, je trouve qu'il ressemble énormément au type d'ailier qu'on a ces dernières années et qui t'apporte un titre NBA. Par exemple, prenons le cas de Andrew Wiggins ou ce type de joueur-là. Eh bien, je pense que dans un Harrison Barnes, on retrouve ce type de joueur. Donc, moi, je prendrais Harrison Barnes, c'est un fait. Donc, on a notre trois titulaires. Donc, on commence Damian Lillard, Shaedon Sharpe, Harrison Barnes et Pascal Siakam. Et ensuite, pour le 5 titulaire, on a deux choix. Deux choix, on va dire, les deux... Il y en a un qui est beaucoup moins fort intrinsèquement que l'autre, peut-être un peu moins risqué en termes de contrat, en termes d'âge. Et puis l'autre qui est évidemment beaucoup plus risqué, mais bien plus fort et qui peut te faire win now, tout simplement. Avec ce premier choix, donc bien plus risqué, pour moi, serait tout simplement Brook Lopez. Alors, Brook Lopez, évidemment, il y aurait une concurrence énorme pour le recevoir. Je ne saurais même pas s'il serait intéressé pour venir chez nous. On pourrait lui proposer un contrat assez intéressant, je pense. Mais voilà, je pense que les Bucks, pardon, vont très vite s'aligner. Il fait partie intégrante de leur roster et de leur roster compétitif qui peut, lui, aller jusqu'au titre. Donc oui, je pense que ça serait très compliqué. Mais à l'idéal, un joueur qui arrive à s'écarter assez efficacement, qui est un énorme défenseur, qui aurait pu, à mon sens, être Dipol cette année, serait un ajout énorme à côté d'un Damian Lillard. Et on aurait un front court tout simplement énorme avec Pascal Siakam qui aurait la place de s'exprimer proche du cercle en faisant ses spins et en jouant son jeu tout simplement proche du cercle. Un Brook Lopez qui arriverait à s'écarter et à prendre tout simplement les passes que des extérieurs pourraient lui donner proche du panier. Bref, on pourrait avoir ce type de front court là qui, pour moi, nous fait passer encore un niveau. Mais ça serait très compliqué de jouer autour d'équipes qui sont eux réellement des contenders et qui vont vouloir aussi se renforcer cet été, c'est sûr. Et puis bien sûr de jouer face aux Bucks qui ont déjà win avec Brook Lopez. Donc mon deuxième choix serait un joueur qui a déjà joué avec Pascal Siakam en plus, qui a joué d'ailleurs cette année avec Pascal Siakam, ça serait Jakob Poeltl. Donc Jakob Poeltl, c'est un joueur qui est à mon sens très sous-coté, j'en ai déjà parlé dans une des premiers podcasts de la chaîne, qui est tout simplement un pivot qui est assez traditionnel avec des mains de velours, un bon scoring assez propre et qui est un excellent, qui peut tout simplement contester les shoots, être un intérieur qui n'est pas très mobile. Évidemment, ça nous change pas trop de Nurkic, mais qui a trois niveaux au-dessus de Nurkic à l'heure actuelle, qui peut défendre son panier de manière efficace, qui d'ailleurs avait surpris beaucoup de monde quand il avait été transféré à Toronto, son retour à Toronto où il avait fait des bons cartons, que ce soit au rebond, même en étant tout simplement double-double, alors même qu'il devait s'insérer dans ce collectif et qu'il était tout simplement pivot titulaire limite day one, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de pivot titulaire ou de pivot tout court à Toronto. Non, je pense que Jakob Poeltl, au niveau de l'insertion d'un joueur, ça serait parfait. Day one, il pourrait apporter, faire ce qu'il sait faire. Ça nous changerait pas non plus d'un Nurkic qui est là depuis quelques décennies maintenant. Donc non, oui, si on peut signer tout simplement les deux pour un bon prix, on sait que Jakob Poeltl ne vaut peut-être pas si cher, entre... 8 ou 12 millions, ça serait Brook Lopez, la vraie signature de cette free agency, mais ça serait intéressant. Ensuite, ma dernière idée, et je pense que ça ne plairait pas à beaucoup de monde, mais pour moi, il ne faut pas non plus disrespecter ce joueur, ça serait Dylan Brooks. On sait que la fin de saison a été très compliquée pour lui parce que tout simplement, il a trop parlé, mais on se souvient de ce qu'a fait Damian Lillard et cette équipe de Portland en termes de renouveau de joueurs un petit peu virus. Voilà, on va dire le mot virus dans cette ligue, notamment avec Carmelo Anthony qui a passé, je pense, des années incroyables chez nous après son prime et quand il est devenu un simple role player. Je pense que Dylan Brooks, si on arrive à faire un petit peu le même travail sur lui et qu'il garde un petit peu cette grande gueule qui lui permet de déconcentrer, enfin bref, qu'on ne travestisse pas non plus sa mentalité, ça pourrait être un guerrier assez incroyable pour nous, un ajout que beaucoup de gens évidemment voudront signer, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir, on n'est pas sur Twitter et Dylan Brooks garde une bonne cote. Et en plus de ça, il pourrait jouer poste 2 ou poste 3, que ce soit en sortie de banc ou si Shaedon Sharpe a du mal tout simplement en prenant sa place sur certains matchs, certains match-up. C'est un défenseur énorme. En première partie de saison, il était tout simplement dans la conversation pour le Deep Boy, dans un top 5, top 7, tout simplement, ce qui n'est pas rien pour un extérieur, même si c'est un ailier, etc. Bref, vous m'avez compris. C'est un joueur qui, évidemment, a énormément déçu et qui est limité au shoot, ou plutôt dans ses choix de tir, et qui pourrait donc, en sortant du banc, prendre ces shoots-là plus efficacement. Et de toute façon, hein, s'il joue à côté de Damian Lillard, il va très vite comprendre que ce n'est pas à lui de shooter et qu'il peut quand même nous mettre 15, 18, 20 points avec des bons pourcentages un soir sur deux. Donc oui, pour moi, ça serait vraiment un ajout énorme à avoir. Donc évidemment que j'essaierais de choper un Dylan Brooks. Donc voilà. Pour moi, on a terminé. Évidemment, on a d'autres joueurs. Hein. Gabe Vincent pourrait être très intéressant, mais il faut pas exagérer. Si on va sur la free agency et qu'on chope tout le monde, ça serait vraiment. Enfin, on n'est pas les Lakers, tout simplement. Et je pense que essayer de choper Jakob Poeltl, Dylan Brooks et peut-être Brook Lopez, ça serait déjà bien. Mais on peut tout simplement, même avec des joueurs de complément, hein, Jakob Poeltl, Grant Williams et Gabe Vincent, par exemple, qui sont tous free agents. Grant Williams, qui pourrait avoir un plus gros rôle chez nous derrière Pascal Siakam ou à côté, ça serait très intéressant, hein. Dans un small ball sur certains match-ups, certains bouts de match, ça pourrait être très intéressant. Donc oui, il y a des choses à faire à cette free agency. Évidemment, pas de grosses stars, hein. Je pense que il est inutile d'appeler des joueurs trop référencés, on va dire, mais ce genre d'ajout, c'est ce qui crée tout simplement des contenders pour moi. C'est ce qui crée des effectifs compétitifs. Donc oui, on garderait des joueurs comme Nasir Little, Matisse Thybul en sortie de banc. On aurait encore Tredon Watford. On essaye de les mettre le plus loin possible de la rotation pour l'instant, mais Cam Reddish a développé peut-être dans notre nouvelle équipe de G League, où Jabari Walker, Drew Banks, on garde aussi. Et on essaye à côté de ça d'ajouter des Dylan Brooks, Jakob Poeltl, ce genre de joueurs tout simplement qui sont des soldats. On a besoin de soldats. On a des joueurs, je pense, qui n'ont pas encore trouvé leur rôle, qui n'avaient pas trouvé leur rôle cette année et qui avaient tout simplement des envies d'ailleurs. Là, on doit signer des mecs qui ont envie d'être là, qui ont envie de faire partie de ce projet. C'est pour ça qu'il est très important pour moi de demander à des joueurs comme Siakam ou Brand s'ils ont vraiment envie de faire partie de cette aventure, tout simplement, et qu'il ne faut pas signer un nom. Il faut signer, allez, on va faire le romantique, le philosophe, mais signer une histoire, tout simplement. Signer un état d'esprit qui se fonde bien dans la mentalité qu'on doit recréer, dans cette culture qu'on doit recréer à Portland. Enfin bref, je pense qu'on a terminé sur la création de cet effectif compétitif. On va pouvoir passer à une forme de petite conclusion. Donc allons-y. Pour conclure, et je pense que vous l'avez tous compris, on est dans une situation assez compliquée niveau Blazers. Je pense que le plus important à préserver, que ce soit dans le cas où on reste et on essaye d'avoir une équipe compétitive, ou dans le cas où on reconstruit, c'est de garder cette culture de franchise, la culture de la loyauté, du travail et tout ça. Il faut développer cette culture à Portland. Là, on a eu des mauvaises surprises pour moi avec Gary Payton et Jeremy Grant qui sont là uniquement pour l'argent, enfin, pour signer des gros contrats. Évidemment, on est dans un business, hein, c'est logique, mais il y a des manières de faire. Je pense que là, il faut commencer à se reconcentrer et ne pas brader nos picks, notamment le pick 3. Et ce pick 3 vaut réellement, dans cette draft, une star. Il faut s'en rendre compte. Il vaut réellement des joueurs comme Pascal Siakam, à mon sens, ou autres. Il vaut peut-être pas Jalen Brown, vu les deux dernières années, mais il vaut des joueurs référencés. Et il ne faut certainement pas brader. Donc s'il n'y a pas le choix, même un Michael Bridges, pour moi, c'est trop faible. On l'a vu, même s'il a eu une année assez spéciale après aux Nets, on l'a vu aux Suns, ce n'est pas le joueur qui te fait passer ce cap pour devenir favori au titre. Il était quatrième option, évidemment, il était un peu plus jeune, mais aujourd'hui, il a 27 ans. Pour moi, ce n'est pas ce type de joueur-là. Même si, comme je l'ai dit, mentalement, il serait vraiment content de jouer avec son pote Lillard. Non, pour moi, c'est... Il faut un joueur calibre All-Star référencé. Nos assets valent ce type de joueur-là. Pour moi, de toute façon, et je pense que pour ceux qui me suivent sur Twitter ou autre, vous l'avez compris, ma priorité serait le rebuild, parce que je pense qu'on arrive dans des années où on aura des prospects très intéressants. D'ailleurs, parce que j'en ai pas parlé, mais pour moi, on doit garder le pick 20, 23, je ne sais plus exactement. Et par exemple, signer et drafter un joueur comme Chris Murray, le frère jumeau de Keegan Murray, ça pourrait être un ajout incroyable à cet effectif. Mais bref, on en parlera peut-être après la draft ou dans de prochaines vidéos. Mais pour moi, donc, le meilleur moyen serait la reconstruction. J'ai bien compris que j'étais le seul à penser ça sur toute la planète et que beaucoup de gens sous-cotent peut-être Scoot Henderson. Ce n'est pas grave. Pour moi, il y a encore un monde possible et imaginable où Portland joue les finales de conf, joue les premières places à l'ouest. Mais pour ça, il faut déjà que dans les bureaux, ça décide de tout simplement d'être compétitif. Et pour ça, il faut payer, il faut prendre des risques, il faut faire en sorte de faire des choix difficiles. C'est-à-dire, ces choix difficiles, c'est de payer ou pas payer Jeremy Grant. C'est de voir si tel ou tel joueur se marie bien avec Damian Lillard. Savoir si dans le cas où il reste dans cet effectif, tout simplement, Anfernee Simons peut redevenir sixième homme et si mentalement il ne va pas dire tout simplement non, je n'ai pas envie, je ne suis pas ce joueur, enfin bref, vous m'avez compris. Il faut créer une sorte d'osmose collective. Il faudra peut-être, et je le pense, et c'est un des trucs où je suis le plus clair, je pense, c'est tout simplement virer Chauncey Billups. Et tout simple, ou en tout cas le faire coach assistant, le mettre dans notre réseau de coach, etc. Mais il nous faut un meilleur stratège. C'est indéniable, c'est un fait. On le voit de toute façon avec les coachs qui vont en finale. Billups ne fait aujourd'hui pas partie de cette caste-là et n'en fera peut-être jamais partie. Donc oui, c'est peut-être le meilleur ami de Damian Lillard, mais il va falloir faire des choix. Et il va falloir aussi penser si au début de cette saison, cela ne fonctionne pas. Si on laisse peut-être une demi-saison, peut-être encore une saison, mais pour moi, ça fait déjà un an et demi que c'est la saison de trop, à tourner une page. Je sais que dans la communauté et que ceux qui m'écoutent, il y en a beaucoup qui sont fans de Damian Lillard et qui ont été fans de Portland après Damian Lillard, mais il va falloir comprendre que pour les deux parties, ce n'est tout simplement pas négligeable de recommencer, de tout simplement lâcher prise, d'essayer de rebuild autour de ces jeunes qui, je pense, si vous êtes vraiment fan de Portland, vous feront kiffer aussi, et qui dans 5 ans, potentiellement, peuvent rejouer les premières places à l'Ouest, et win, tout simplement. On est là pour ça, et je pense réellement que Damian Lillard est le joueur qui peut emmener un titre, mais il y a une histoire de fenêtre en NBA, de fenêtre de titre, de fenêtre de performance, appelez-la comme vous voulez, et je pense clairement que depuis 2019-2020, on a refermé cette fenêtre. Essayons de forcer en la réouvrant, essayons une dernière fois. On a pour une fois, pour un été, depuis quelques années, les assets disponibles pour essayer de réouvrir cette fenêtre. On a de quoi faire, hein. Franchement, on a des assets, des joueurs, des jeunes. On a des pics de draft, le 3, le 20, on a tout ce que vous voulez. Donc essayons une dernière fois. Moi, je ne suis pas fervent admirateur de cette solution, au vu de ce qui se passe dans les bureaux, de la vente, du coach, tout simplement. Mais on va dire que c'est une forme de the last dance, pardon, et que si elle fonctionne, bah, je ferai mes excuses les plus sincères, et évidemment, je me tatouerai Damian Lillard dans le dos. Mais voilà, ça va être compliqué à mon sens. On va refaire des vidéos et des daily react à chaque nouvelle ou chaque transfert qui est fait vers Portland, parce que même si je ne ferai pas ça pour toutes les franchises, vous vous en doutez bien, je pense que Portland est une franchise qui, bah, de toute façon... Voilà, c'est ma chaîne, et Portland est ma franchise préférée, donc je ferai ces vidéos si je le souhaite. Et tout simplement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis beaucoup éparpillé parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je pense qu'avec Charlotte, notamment, qui est en deux, on est sur une des années les plus charnières pour ces deux équipes, et peut-être Toronto ou des équipes comme ça, hein. Mais je pense qu'on est dans une situation assez spéciale cette année pour Portland, et on est dans une situation d'intersaison les plus intéressantes de la Ligue. Enfin, notre équipe est la plus intéressante de la Ligue pour cette intersaison et ce qui va s'y passer. Donc voilà, je pense qu'on a terminé. J'espère que vous me suivrez aussi sur YouTube ou sur Spotify, Deezer, etc., selon vos préférences. Mais allez voir les deux, ça m'aiderait beaucoup. Je vous souhaite à la prochaine pour de nouveaux The Natural Podcast, et bonne soirée à tous.